Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent au biathlon, à l'histoire de ce sport nordique très particulier, sport d'hiver, le biathlon. Et aujourd'hui, je ne serai pas seul. Pour la première fois depuis 3 ans ou 4 ans, je suis en compagnie de Maëlane, qui est une spécialiste des sports. Maëlane ?
Bonjour.
Très bien. Alors, je sais que vous aimez les sports d'hiver.
C'est ça, surtout le biathlon. Hein. Je ne vais pas me discréditer, mais je connais quand même pas mal l'histoire du biathlon, surtout français.
Parfait. Donc aujourd'hui, l'émission ne va pas durer 10 minutes. Elle va durer peut-être une trentaine de minutes. On va faire des quiz et je sais que vous êtes une spécialiste. Donc en introduction, je dirais que le biathlon fait son apparition au programme officiel des Jeux Olympiques d'hiver lors des Jeux de Skwe Valley en 1960, avec une seule épreuve individuelle masculine sur 20 km au programme. Et au fur et à mesure que le sport a gagné en popularité en pratiquant, le nombre d'épreuves a augmenté et leur format s'est diversifié. Comme on va le voir, c'est assez compliqué, donc Maëlane est là pour tout nous expliquer. Et les compétitions féminines ont été introduites en 1992 lors des Jeux d'Albertville. Mais avant 1960, une épreuve par équipe combinant ski de fond et tir, similaire au biathlon, et appelée à l'époque ski militaire et plus connue sous le nom de patrouille militaire, a figuré officiellement au programme des Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques de 1924 à Chamonix en France. Et c'était devenu aussi un sport en démonstration en 1928 à Saint-Maurice en Suisse et en 1936 à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Cette discipline à l'époque était considérée comme l'ancêtre du biathlon et une autre discipline aussi à l'époque, on appelait ça le pentathlon d'hiver. Elle comprenait 5 épreuves, dont une de ski de fond et une de tir, a également été testée en sport de démonstration lors des Jeux de 1948 à Saint-Maurice en Suisse. Et donc en 1924, la France est déjà 3e derrière la Suisse et la Finlande et obtient donc une médaille de bronze. Alors, la particularité, Maëlane, c'est un sport, moi j'ai du mal quand je prends toutes mes notes, je sais qu'il y a 5 épreuves masculines, sprint 10 km, poursuite 12,5 km, individuel 20 km, master 15 km et relais 4 fois 7,5 pour les hommes. Et 5 épreuves féminines, sprint 7,5, poursuite 10 km, individuel 15 km, master. Vous allez nous expliquer ce que c'est la master. 12,5 km et relais 4 fois 6 km. Et il y a en plus une épreuve mixte, relais 2 fois 6 pour les femmes et 2 fois 7,5 pour les hommes. Alors, pourquoi tant d'épreuves ?
Bah déjà, ils ont voulu réintégrer le relais mixte, surtout en plus avec le relais mixte simple, pour pouvoir permettre à des athlètes de pouvoir concourir sur des plus courtes distances et surtout montrer leur talent au tir, parce que c'est là généralement que ça se joue pour le relais mixte simple. D'accord. Ensuite, relais mixte, je pense que c'est toujours bien de montrer qu'on est plus puissant, pardon. Tous réunis parce que clairement on a pu voir que l'équipe de France, si je prends l'exemple, a très bien réussi hein, cette saison, on peut être très fiers d'eux, mais il y a d'autres nations qui pêchent encore là-dessus parce qu'ils sont pas complémentaires hein. Et je pense que là ça va faire du bien les Jeux de 2026 parce qu'il y a énormément à changer au niveau du tir. Et il y a aussi de nouvelles réformes, hein, comme on a pu voir avec le non-fluor pour les skis. Donc, c'est-à-dire qu'on met moins d'adhérence sous le ski, que ça permet moins d'aider les biathlètes. D'accord. Et ensuite, tout ce qui est confrontation individuelle, comme on dit, le sprint conditionne la poursuite, il faut toujours être au taquet. Hein. Il faut être sur les skis dès le sprint, il ne faut pas faire d'erreur. Après, tout dépend du circuit. Hein. Il faut faire attention à bien gérer toujours le tir. Si je prends l'exemple là de cette saison, hein, je prends Justine Brezès-Boucher qui et impressionnante, impériale sur les skis, mais qui a encore du mal derrière la carabine. Il faut se faire mais faut qu'elle se fasse un peu plus confiance, bien sûr. Mais c'est aussi qu'il faut gérer son souffle, sa cadence cardiaque est très importante.
Alors, les distances de ski, elles diffèrent selon les hommes et les femmes, bien sûr, mais les conditions de tir sont en revanche identiques, quelles que soient l'épreuve et le sexe. Par exemple, les 5 cibles alignées horizontalement sont positionnées à 50 mètres des tireurs, ont un diamètre de 4,5 cm pour un tir couché, de 11,5 cm pour un tir debout. Et à chaque tir réussi, on dit que le fond noir de la cible s'efface et laisse la place à un fond blanc pour signaler au biathlète qu'il fait mouche, d'où l'expression « blanchir la cible ».
C'est ça.
Ça vous parle ?
On va dire que, si vous voulez un peu plus visualiser, sur le tir debout, ça va ressembler à un CD, le diamètre. Et pour le tir couché, ça va ressembler à une balle de golf. Ça va être vraiment très petit, mais c'est là où généralement tout biathlète arrive à blanchir la cible.
D'accord. Donc dans l'épreuve individuelle, si j'ai bien compris, qui est l'épreuve la plus ancienne du biathlon, la plus ancienne aussi au programme des Jeux Olympiques, c'est une épreuve contre la montre. Les concurrents s'élancent individuellement toutes les 30 secondes. La particularité, c'est que une fois que tous les biathlètes en ont terminé, celui qui a le temps le plus court, il est déclaré vainqueur. C'est simplement ça.
C'est ça. Après
Et les tirs sont alternés, si j'ai bien compris. Couché debout.
Vous avez tout compris. Et après, pour l'individuel, il va avoir une différence, c'est qu'il n'y a pas de tour de pénalité.
D'accord.
Ça va être sur la mass start où on peut. La mass start, moi, je le réfère énormément à l'individuel. Pour moi, c'est à peu près le même style, à part que c'est tout. C'est un départ groupé. Hein.
D'accord.
Mais non, on ne va plus avoir d'anneaux de pénalité, donc on n'enlève pas les 150 mètres, mais on rajoute des secondes. Donc en fonction de l'individuel, qu'il soit court ou long, donc ça, tout dépend, ça va être soit 45 secondes de rajouter après une erreur de commise, soit ça peut être une minute, voire plus.
D'accord.
Donc ça peut être très fatal. Donc c'est une très belle épreuve parce qu'il y a beaucoup de rebondissements.
Alors après, on passe à l'épreuve du sprint, où les concurrents s'élancent aussi toutes les 30 secondes, si j'ai bien compris. La distance est la moitié de celle de l'individuel. Donc finalement, les hommes ne font que 10 km au lieu de 20, les femmes 7-5 au lieu de 15. Et la particularité là, c'est que le nombre de tirs effectués est également la moitié de celui de l'individuel. Et chaque cible manquée est sanctionnée d'un tour de pénalité, comme vous dites, de 150 mètres à effectuer immédiatement après le tir.
C'est ça. Donc, au bout d'un moment, si on est trop juste derrière la carabine, ça va commencer à faire un peu mal et à piquer. Donc, non, il faut toujours prendre en compte le tir. Hein. C'est vraiment...
Chaque tour de pénalité, Maléane, c'est 25 secondes à peu près, 30 secondes
25, voire même 30 secondes, clairement, parce que il ne faut pas non plus... faire un sprint sur la note pénalité, et il est très généralement très serré, donc non, il faut le prendre en compte dans la stratégie.
Alors maintenant, quand on passe à la poursuite, il y a un lien avec le sprint, c'est-à-dire que dans cette épreuve-là, le vainqueur du sprint part en premier, suivi de son dauphin,
en fait,
qui s'élance à la poursuite avec le retard qui correspond à l'écart entre
voilà,
les deux.
Voilà, en fait, l'écart qu'il y aura à la fin du sprint, la première, je prends une biathlète qui finit première, qui met 30 secondes à son adversaire qui finit deuxième sur le podium. Elle partira avec 30 secondes d'avance sur la deuxième. Et après, ainsi, l'écart se fait avec les autres biathlètes.
Et les séances de tir sont intercalées, c'est-à-dire que les deux premières sont en position couchée et les deux suivantes, les deux dernières, sont en position debout.
Donc c'est ça, c'est généralement...
Il faut
suivre, surtout que le sprint, généralement, c'est un petit foutoir parce que... On ne part pas tous en même temps, il y en a qui commencent et ensuite il y en a qui finissent. Donc il faut s'y retrouver, il faut suivre. Et surtout que maintenant l'IBU, donc la Fédération Internationale, a lancé le groupe rouge. Donc c'est, on va dire, les 30 premières du classement général qui partent à peu près à la 40e place. Et pour nous permettre de savoir vraiment que c'est elles qui vont jouer le podium et le classement. Mais on se pose encore la question de est-ce que c'est une bonne idée ou pas, hein, parce que... on voit que les conditions de la piste sont dégradées au bout de déjà le premier groupe des 30 premières. Donc, à voir s'il faut changer ou pas. Donc, il faut encore tester. C'est que la première saison.
Alors après, on vient à l'épreuve, disons, qui est l'épreuve individuelle qui est la plus récente au programme des Jeux Olympiques. C'est la mass start, mot anglais qui veut dire départ groupé. Donc tout le monde part sur la même ligne de départ. On effectue 15 km pour les hommes, c'est quand même 5 boucles de 3 km, et 2,5 km pour les femmes, 5 boucles de 2,5 km. Les séquences de tir sont similaires à celles de la poursuite, qu'on vient de voir, enchaînement de 2 tirs couchés puis de 2 tirs debout. Et là aussi, il y a cible manquée, veut dire tour de pénalité. Et la particularité de la mass start, c'est pour la télé peut-être, c'est pour que ça soit plus...
Moi je trouve ça, je pense que c'est l'une de mes courses préférées parce qu'elle est longue déjà. C'est oui. Ça, c'est, moi le sprint c'est pas mon péché mignon on va dire.
D'accord.
Mais non, la mass start, avec les 4 tirs, c'est que peut avoir du rebondissement tout le temps. Et que ça soit quelqu'un qui est très loin au classement général de la Coupe du Monde et comme le leader, bon, on peut s'affronter tous en même temps. Donc je trouve ça une très belle idée.
Très bien. Donc on termine par le relais, donc masculin et féminin, qui sont des courses en ligne avec des parts groupées disputées par équipe nationale. Et chaque équipe est constituée de 4 biathlètes. Chez les hommes, le total, c'est 7,5 km pour les hommes. Et pour les femmes, c'est 6 km. 3 fois 2 km, enfin la boucle du moins,
c'est ça,
qui est à parcourir par les 4 athlètes. Donc c'est un départ groupé, si j'ai bien compris. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a des tirs, bien sûr, couchés puis debout. Et à la différence des courses individuelles, si le concurrent n'a pas blanchi, n'a pas réussi toutes les cibles après avoir tiré les 5 balles de son chargeur, il a le droit d'utiliser jusqu'à 3 balles supplémentaires.
Des balles de pioche, c'est ça.
Des balles dites pioches. Et ces balles de réserve doivent cependant être chargées manuellement dans la carabine, ce qui entraîne une petite perte de temps, 5 à 10 secondes environ, pour tirer supplémentaire. Mais s'il a tiré ses 8 balles et qu'il a encore...
Il y a une autre pénalité.
Il aura des pénalités.
C'est vraiment... je pense que le relais, on a pu le voir cette année. Hein. Ça a été un spectacle grandiose. Hein. Il peut avoir un rebondissement tout le temps, mais le fait d'avoir ses balles de pioche, c'est d'appréhender un peu moins le tir et de pouvoir se lâcher, pouvoir battre les chronos.
Parfait. Alors, il y a un Français qui, évidemment, est un des meilleurs mondiaux, qui nous a impressionnés, c'est Martin Fourcade, qui est né en 1988 à Céret, donc dans les Pyrénées orientales. Il n'est pas né ni dans les Vosges, ni dans le Jura, ni dans les Alpes, mais dans les Pyrénées quand même, Céret. Il a été 6 fois champion olympique. Est-ce que vous pouvez me parler de lui? Est-ce que c'est un coureur que vous appréciez?
C'est un coureur... assez splendide d'avoir parce que il a pas une très grande musculature on va dire, mais il reste tout de même assez fluide sur les skis et comme on le surnomme hein, c'est Lucky Luke derrière la carabine hein, il est impressionnant, il se démoralise jamais et il est toujours là pour son équipe.
Il a en tout cas 6 médailles d'or, une d'argent, donc par équipe j'imagine, aux Jeux Olympiques de... Il a fait 3 Jeux, les Vancouver en 2010, Sochi en Russie en 2014 et Pyeongchang en 2018, et à Pyeongchang il a eu 3 médailles d'or. Il a donc égalé le record de Jean-Claude Killy qui avait réalisé 3 médailles d'or en ski alpin en 1968. La particularité, c'est que il a été président de la commission des athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il est membre du CIO pour un mandat de 8 ans. Et par contre, ce qui est surprenant, c'est pressenti pour prendre la présidence des Jeux Olympiques d'hiver 2030 qui auront lieu dans les Alpes françaises, c'est-à-dire Nice, Briançon. Il a renoncé et c'est Gros Piron qui le remplace. C'est dommage.
Moi, j'avoue que j'avais mon petit péché mignon pour lui. Hein. J'avais mon coup de cœur. Je voulais qu'il prenne cette place, ce rôle. Parce que pour moi, c'est la meilleure représentation du sport français, en tout cas. Et pour moi, il avait cette place. Mais avec ce qu'il a pu nous expliquer, déjà au niveau écologique, hein, je peux comprendre que ça a été très compliqué. Et. Il a eu aussi sa place avec le CIO, donc je pense qu'il veut aussi mettre un peu de côté tout ça.
Très bien, on passe à la troisième partie. Si on regarde le tableau des médailles des Jeux Olympiques de 1924 Chamonix à 2022 Pékin, c'est la Norvège incontestablement qui est en tête avec 22 médailles d'or, un total de 55. L'Allemagne, 58 médailles, mais simplement 20 en or. Et la France est en troisième position, 33 médailles, donc 13 en or. Loin devant la Russie, la Suède est à 18 médailles, dont 6 en or. Comment expliquer peut-être le biathlon est une, on verra plus tard, le ski de fond, lui, n'a rapporté aucune médaille d'or aux Jeux Olympiques, simplement une médaille d'argent. d'argent et 4 de bronze avec surtout Magnifica. Mais le biathlon, c'est une tradition française. C'est surtout l'armée, les douanes, les Vosges, le Jura, les pays de moyenne montagne. La Fédération française note 350 licenciés. C'est peu.
Ce qui est peu par rapport à la Norvège, il faut se le noter. Hein.
Par contre, la France était présente en 1924 en biathlon. Elle était présente dans les années 80 avec Yvan Mougel, Raphaël Poiret, Vincent Defrane, Sandrine Baillet, Corinne Niogret. Et elle s'est appuyée sur l'expertise de Jean-Pierre Amat à l'époque. Enfin, Jean-Pierre Amat a été champion olympique en Atlanta 1996. Je crois qu'il gagne en position 3 tirs les 3 fois 50 mètres en tir. Et à la tir à la carabine à 10 mètres, je crois qu'il est médaille de bronze. Donc Jean-Pierre Amat, avant d'entraîner l'équipe de France du biathlon, a entraîné l'équipe chinoise de biathlon. Peut-être un petit mot, vous dites la Norvège, c'est la tradition des sports nordiques. Alors la Norvège, c'est 385 000 km², c'est le plus à l'ouest, la capitale. Attention, Oslo, la capitale norvégienne.
Oui,
et c'est un pays de 5 millions d'habitants. Au centre, on oublie toujours comment sont constitués les pays nordiques. Au centre, nous avons la Suède, avec 450 000 km², 10 millions d'habitants. Au nord, il y a la Laponie, Stockholm et son lac est au centre, et Malmö au sud. Et plus près de l'Union soviétique, quel est l'autre pays? Un grand pays, bien sûr, de saut à ski, de ski de fond. C'est la Finlande, 338 000 km², 6 millions d'habitants. Le pays, donc, nordique par excellence, très bon aussi en athlétisme, les Finlandais. Alors, la Norvège fait donc partie de la Scandinavie. C'est cette région historique et culturelle d'Europe du Nord, constituée des trois monarchies constitutionnelles, le Danemark, la Norvège et la Suède. Elle fait partie aussi des pays nordiques, c'est-à-dire en incluant en plus la Finlande, l'Islande, les îles Féroé et le Groenland sous souveraineté danoise. Et elle fait partie de l'Arctique. Alors l'Arctique, je vous disais en aparté, ça veut dire « pays de l'ours », composé de la Russie. Il faut dire que la Norvège a un lien avec la Russie. Elle a une frontière commune, comme la Finlande avec la Russie. D'ailleurs, elle a été envahie en 1940, comme les Finlandais, par les Allemands. Elle a été envahie le 9 avril 1940. Et d'ailleurs, à l'époque, le gouvernement s'est réfugié à Londres, mais la nation norvégienne, comme la nation finlandaise, a fait l'objet d'une grosse cohésion, rare à l'époque. Alors la particularité de la Norvège aussi, fait-elle partie de l'Europe Eh bien non, elle a refusé à deux reprises par référendum de rejoindre l'Union européenne, en 1972 et en 1994. Et c'est surprenant quand même, voilà. Et le drapeau norvégien, vous voyez un peu Maliane comment il est constitué,
oui.
Il est rouge avec une croix bleue bordée de blanc s'étendant jusqu'aux limites du drapeau, voilà. La Norvège, la particularité, c'est que c'est un pays où il y a beaucoup de pétrole. Et on considère quand même que s'il y a du réchauffement climatique, il est visible là-bas. Et en effet, c'est important d'aborder ce pays. Maintenant, nous allons parler sans doute, Malène, du meilleur athlète de tous les temps en biathlon. C'est le Norvégien Ole Einar Bjørndalen, qui a la particularité d'avoir remporté 8 médailles d'or entre 1998 et 2014. Vous voulez en dire quelques mots? 8 titres olympiques.
Pour moi, je ne sais pas si je le qualifierais de meilleur biathlète. Certes, les statistiques, les chiffres, etc. le disent. Hein, sincèrement, ça c'est sûr, c'est clair et net. Mais est-ce qu'il avait la concurrence présente pour? Je ne sais pas si je pourrais dire ça. Est-ce
D'accord.
que c'était le même matériel qu'avant? Je ne sais pas si à l'heure actuelle, si on le remettait sur les skis avec sa forme d'antan, bien sûr. Est-ce que ça fonctionnerait? Je ne sais pas, mais c'est quand même l'ogre norvégien. Hein. C'est tous les gros globes de cristal qui ont
oui.
été. Donc non, c'est bien sûr au niveau des chiffres, il est impressionnant. Et sur la longévité, on ne peut pas en parler. Hein.
À l'époque, il affrontait dans les années 1990 à 2007, Raphaël
Poiret.
Il a terminé sa carrière en 2014 à Sochi. Il avait 40 ans. Et donc on est en 2014. Et en 2015-16, il gagne encore sur le 20 km individuel à Östersund, portant ses victoires à 95 succès. Il est marié maintenant avec la meilleure biathlète qui est biélorusse. Elle s'appelle Daria Domracheva. Elle a gagné 4 médailles d'or pour un total de 6 médailles entre 2010 et 2018. Elle est moins médaillée qu'une Allemande qui s'appelle Uchi Dils, qui avait 9 médailles, dont 2 à Nord. Mais elle vit donc avec lui. Et on peut dire qu'il se retire, évidemment, et il a fait quand même il a aidé quand même l'équipe chinoise. C'est drôle, hein, qu'on aide. Tout à l'heure, je parlais de Jean-Pierre Amat.
Il a malheureusement pas réussi, donc c'est pour ça qu'il a arrêté après les Jeux d'hiver, hein, de 2022. Mais il a arrêté sa carrière juste avant les Jeux de 2018 à Pyeongchang. Parce que il avait plus les résultats, hein. Il commençait à avoir si je ne me trompe pas 44 c'est ça. Donc au bout d'un moment il fallait arrêter, et je pense qu'il a eu du mal à dire stop, ce que je peux comprendre, et c'est la sélection norvégienne qui lui a dit stop.
Tout à fait. Alors, à Pékin en 2022, si on regarde les derniers Jeux Olympiques, ont émergé Marthe Obstou Rosland, Johannes Bo, c'est un Norvégien aussi, et un Français, Quentin Fillon-Maillet. La particularité, c'est quand même 5 médailles aux Jeux de Pékin.
Quentin nous a fait, je pense, tous rêver, et c'est pour ça qu'on attend avec grand plaisir 2026. Bien sûr, les bœufs, on va pas tarier, Johannes, sont toujours... malheureusement, ils ont pris leur retraite cette année, mais ils ont été présents comme jamais lors de ces Jeux, comme chaque Norvégien, je pense, comme Marte Orlusborg Roseland et même Thierry Lekhoff. Donc ça a été très beau, parce que on avait quand même des grandes légendes qui maintenant sont malheureusement parties à la retraite. Donc je pense que c'était des très très beaux Jeux.
Il a débuté sa carrière en Franche-Comté, donc ce n'est pas un Alpin ni un Pyrénéen, vous voyez, Fillon-Maillet. Et donc, il a réalisé 5 médailles en 6 courses, dont l'or sur l'individuel et la poursuite, ainsi que l'argent en relais mixte, en sprint et en relais homme. Et il est en tête de la Coupe du Monde. Il est actuellement en tête. On finit peut-être par les meilleurs Français, à part Fillon-Maillet, et les Françaises. Et on finira avec ça.
Ouais. Alors, cette année, on a noté la 3e place au classement d'Éric Perrault, un autre petit jeune. Je pense que, comme on a tous pu le voir, il a une présence impressionnante, parce qu'il est très calme malgré qu'il joue le classement général. Je pense que cette année, il savait que ce n'était pas possible avec Sturla Ligred et Johannes Bø. Avec aussi une petite attache à Sturla, qui a gagné le classement général face à Johannes pour la dernière saison du Norvégien. Donc très contente. Mais Éric Perrault, je pense que c'est un athlète à suivre qui me fait énormément penser à Martin. Donc à Martin Fourcade, bien sûr. Donc je pense à suivre. Et bien sûr, grande saison de tous les Français. Émilien Jacquelin qui revient à la victoire, ça fait extrêmement plaisir. Quentin qui est toujours présent. Et je pense qu'il a pris un cran sur les skis. Et c'est très important de le noter, parce que moi, je ne le voyais pas quand il a gagné le globe de cristal en 2021, si je ne me trompe. Je pense que c'est les athlètes à suivre, avec bien sûr les frères Claude, qui nous ont fait pleurer avec leur première victoire, et le triplé français qui a été fait cette saison. Et bien sûr, les relais masculins à noter, ils ont fait le 5 sur 5 cette saison, sauf bien sûr le relais des championnats du monde qui n'a pas été gagné. Malheureusement, mais c'est un défi à avoir pour l'an prochain, je pense. Et pour les filles, la petite déception de Loujean Monod avec ce dernier virage avec Franziska Preuss, qui était signe de sa jaune et du coup gros globe de cristal, soit deuxième place, et c'était fini. Et malheureusement, ça a été en défaveur de la Française, mais très belle saison de nos Françaises. Julia Simon qui nous fait peur, mais en même temps qui nous impressionne derrière la carabine, qui a encore un peu de mal sur les skis, mais je pense que ça va vite revenir avec Cyril Burdet qui va être derrière elle tout le long de la préparation d'été. Et ensuite Justine qui, je pense, doit se faire plus confiance derrière la carabine, qui nous l'a montré en fin de saison, qu'elle était présente, donc parce qu'elle a de quoi gagner pour moi le globe, hein. Vraiment, c'est une athlète que je considère très haute et qui peut faire de grandes choses, donc il faut qu'elle se fasse un peu plus confiance. Et bien sûr nos petites jeunes, hein, avec Paula Beauté, Sophie Chauveau qui a eu une saison assez compliquée mais qui peut revenir, Et les petites de l'IBU, de l'équipe B, de l'équipe de France, comme Camille Bennett, qui nous a fait rêver à Oslo, la dernière étape de la Coupe du Monde. Ça a été impressionnant. Donc, merci à nos Bleus pour cette saison.
Merci beaucoup, Maëlan. Je vais la résumer de cette façon. Aujourd'hui, c'était la 210e, depuis 4 ans, de chronique sportive qui ne dure que 10 minutes. Aujourd'hui, c'est la première. On a fait peut-être 30-35 minutes avec Maëlan. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous vous souviendrez de cette émission.
Avec grand plaisir.
Parce que, comme on dit, t'es là. Je sais que vous êtes là avec moi pour les sports d'hiver. Et on va donc continuer de la manière suivante. C'est très bien. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.